Brasero, brassage radio.
Pourquoi on fait ça? Bah parce qu'il y a besoin en vrai, et parce que ça nous plaît aussi, je pense.
En fait, on a besoin, pour nous organiser, d'espaces qui avant existaient de rencontres intellectuelles. Et qui soient pas des micro-mondes ou des entre-soins, qui soient des espaces populaires.
Bah, il y a besoin d'avoir des temps où on réfléchit, où on discute, où on confronte nos idées, où on partage nos vécus. Où...
Et que ça évite justement de placer le militantisme dans, bah, comme on disait tout à l'heure, en fait, dans des circuits commerciaux finalement, où la finalité ne serait que exploiter un certain public LGBT.
Et c'est aussi un espace, je sais pas, je me dis qu'on peut être surpris, quoi. J'ai pas plein d'espaces dans ma vie comme ça où peuvent arriver des gens par hasard ou qu'on pensait pas rencontrer et qu'on finit par rencontrer. Je trouve que c'est participer à un espace où ça c'est possible.
Et pour moi, ouvrir une bibliothèque avec sa petite routine en fait, hein, donc permanence, un peu d'activité, c'est une façon d'envisager le militantisme à beaucoup plus longue échelle.
On est construit par les bouquins aussi, tu vois, faut pas se mentir. Du coup, pourquoi l'abandonner à une ou deux maisons un peu classe politiquement, ou pourquoi? On est plein à écrire et à avoir ce savoir-faire-là, tu vois.
Moi, j'ai un peu découvert les écrits militants tout seul dans mon coin, par le biais des brochures notamment. Et je crois en cet objet politique de la brochure.
Bah, l'outil fanzine, déjà, c'est utile pour nous parce qu'on s'auto-organise, on prend la parole déjà.
Et on prend la place.
On prend la place.
Je pense que la première brochure que j'ai faite, ça s'appelait « Le plastique, c'est fantastique ». Et c'était de l'information sur la réduction des risques sexuels pour les lesbiennes et les bi.
Je me suis dit que j'avais envie de prendre le défi d'un peu les faire circuler largement et de faire découvrir un peu ces écrits à des personnes qui n'y ont pas forcément accès.
Mais ça vient plus loin, c'est genre qui a les relations, qui a la possibilité d'aller jusqu'au point, d'aller en thèse. Et même si tu écris des romans, bah, il faut que, voilà, que tu aies les contacts et tout pour pouvoir être publié, parce que sinon ça marche pas.
On est porté par l'envie de construire quelque chose de collectif, de participer à notre échelle à quelque chose qui soit collectif, de porter des voix de personnes qui parfois accèdent difficilement à l'édition.
C'est des mots qui résonnent fort pour nous, de prendre la place. C'est de prendre la place qu'on refuse de nous donner, qu'on refuse de nous laisser dans le quotidien, dans les transports en commun, partout. Et ben là, on va la prendre par de l'édition libre.
Le livre, il y a quand même une approche qui est différente, beaucoup plus petite, qui est possible. Il y a une indépendance aussi qui nous est chère. Il y a le format, le fait que ça peut circuler, le fait que les personnes se l'approprient comme elles le souhaitent, le fait que ça se démultiplie.
Enfin une nouvelle émission. Ça faisait longtemps. C'est pas qu'on a chômé, c'est qu'on s'est mis à faire différemment. Plutôt que de choisir un thème et d'en parler, on a eu envie d'aller vers les gens, les luttes, les moments, sortir du studio et faire un truc inédit, des reportages.
C'était boue là, franchement. Ce vent.
Alors, on arrive à la chapelle, c'est ça?
Ouais.
Tout à fait.
Moi, je crois que c'est la deuxième fois que je vais au kiosque de toute ma vie entière.
Alors, librairie ou bibliothèque?
Donc il n'y a aucun livre qu'on peut emprunter.
L'idée c'est qu'il y en a déjà d'autres de bibliothèques et tout ça, et que là c'est plus pour aider toutes les petites maisons d'édition indépendantes et tout ça, et de vendre qu'il y a une présence. C'est plutôt pour les aider elles qu'autre chose, quoi. C'est à la fois bibliothèque et librairie, ça voudrait dire avoir un double stock, à chaque fois courir après. Puis il y a la question de comment faire bibliothèque sans courir après les gens, sans les fichiers, sans les... Du coup, on s'est plutôt centré sur librairie, en vendant des prix bas. Et après, avec prêt possible, si vraiment, ou des consultations sur place.
Et il y a du monde qui va ?
c'est variable. Après, il y a souvent plus de monde sur une soirée. Puis lundi soir, il y avait plus de monde quand il y avait la relâche. Après, là, il y a eu une ou deux semaines, il y a quand même du passage, quoi. Ça dépend un peu du temps qu'il fait. Et puis, il y a tout le confinement, Covid, tout ça, où là, il n'y avait pas grand monde. Il fallait aussi se relancer au niveau collectif, nous, quoi. Et puis, il y a la chapelle qui est en travaux. Donc, il y a tout ça qui fait que ça fait... Ça fait des petits passages et une seule permanence par semaine, là où avant il y en avait un peu plus. Donc, c'est ça aussi comme contrainte.
Tu passes pas par hasard, quoi.
Ouais.
Enfin, je veux dire, faut savoir que c'est dans une rue pas passante au fond d'un jardin.
Mais ça a jamais été différent. Enfin, en vrai, même si on a voulu essayer de le faire différemment, c'est compliqué, quoi.
Parce qu'avant c'était pareil, dans une rue pas passante, au fond d'une cour. Il monte un escalier, traverse une terrasse. Passer une porte.
L'impression que les gens sont en réunion.
Pencher ta tête et te rendre compte qu'il y avait plein de gens que tu connaissais pas qui te regardaient, mais qu'est-ce que tu fais là? Et rentrer. Et après ça se passait bien, mais plusieurs étapes.
Ça fait combien de temps que ça existe?
Une vingtaine d'années.
Ouais, une vingtaine d'années. Ouais.
Trois lieux.
Ça a vraiment été créé, il y a 20 ans, au clan D, moi j'étais pas encore sur Toulouse. Et puis. Pas très en 96, 17, pas très vieux non plus. Et non, je suis arrivé plutôt en 2008 par là.
L'expulsion du clan B en 2006, du coup, ça a déménagé dans le lit au fond de la cour. Là.
À Arnaud
Bernard, ouais. Là, on est resté jusqu'en 2010
ans quasiment.
Ouais,
il y a eu un bail en gros jusqu'à. Ouais, c'était une dizaine d'années.
Et après ça, on a déménagé le stock ici, à la chapelle. On a fait des tables volantes pendant 2-3 ans, le temps de construire cet espace. Et depuis...
Et ça a été un chouette moment, c'était l'autoconstruction. Enfin, pouvoir faire quelque chose en commun en ville, et un lieu avec l'idée dès le départ qu'on fasse un lieu qui soit pour le kiosque au début, mais qui reste, puis qui a l'objectif d'achat de la chapelle, et qui puisse être utilisé par d'autres choses, et qui soit pérenne, donc avec un peu l'envie de faire du joli, enfin quelque chose d'assez joli pour du collectif, qui soit pas juste là, comme souvent, fait vite fait, parce qu'on sait pas si ça va tenir tout ça, donc avec deux bouts de ficelle, et fait rapidement, il y avait vraiment l'envie de faire un chouette lieu qui donne envie de venir, et qui puisse être vraiment un outil, quand nous on le lâchera aussi, ou enfin, si aussi le kiosque doit s'arrêter, et qu'il soit à peu près correct. C'était un chouette moment, en fait, la co-construction du lieu.
Là, on était au kiosque. C'est le premier endroit où on a été. Notre premier chapitre, notre note d'éditrice. Le début de dizaines de rencontres ensuite. On a mis un pied au kiosque, et il est resté coincé dans la porte de ce sujet qui nous a traversé pendant plus d'un mois.
Les personnes qui tiennent ouverts les lieux des livres.
Les petites mains qui éditent des bouquins.
Les fabricantes de fanzines.
Les photocopieurs de brochures.
Comment les écrits circulent dans les milieux politiques, anarchistes, féministes, queer, antiracistes, anticapitalistes ou parfois, comme on aime, tout ça à la fois.
Comment on s'approprie cet endroit monopolisé par la classe intellectuelle dominante, se le réapproprie.
Comment on fait des lieux qui accueillent les auteurs morts, vivants, présents ou loin, et leurs potentiels lecteurs, lectrices, et aussi des endroits qui discutent ou qui accueillent juste le fait que tu ramènes ta fraise.
Ça nous a passionnés, ces rencontres. On a eu du mal à arrêter. On s'est rendu compte que chacun, chacune, à nos endroits, on est intimement lié à cet objet qui fait mémoire, qui fait grimoire des luttes et des paroles qu'on a besoin d'entendre.
Ce soir, on va entendre Le Kiosque et Sol et Karima des éditions toulousaines Blast.
Bonne écoute.
Ok, donc moi c'est Sol. Je travaille dans l'édition depuis quelques années. Je viens du monde des arts du spectacle et du cirque. On a eu envie de monter une maison d'édition avec Karima, et du coup j'ai complété l'une de mes formations avec une année sur l'édition spécifiquement. J'ai toujours eu les mains dans le monde des livres aussi, donc c'est venu de façon assez spontanée d'avoir envie de se tourner vers l'édition. Et par ailleurs, On est dans des mondes un peu militants depuis l'adolescence. Enfin, je dis on, je vais te laisser te présenter, mais ouais, du coup, c'est dans des mondes où on partage des convictions politiques assez fortes, des valeurs, des engagements, des envies de faire bouger un certain nombre de choses. Dit comme ça, c'est vaste et ça veut pas dire grand-chose, mais je pense qu'on a un accord minimum commun ici, donc voilà. Et voilà, et du coup, en parallèle de l'édition, j'ai un travail alimentaire parce qu'on n'en vit pas, et donc j'allie ces deux choses en parallèle. À toi.
Alors moi, c'est Karima. Pour l'exercice, je vais essayer de raconter un peu le parcours, mais c'est vrai qu'on a un peu une paire de chaussettes avec Sol, donc c'est assez redondant. Je viens aussi des arts du spectacle, c'est là qu'on s'est rencontrés. On a décidé de monter la maison d'édition pour que ça rejoigne aussi nos convictions militantes.
Blast, c'est une maison d'édition indépendante qui est née en 2019. On est deux à y travailler, en tout cas à s'y investir. On travaille avec plein d'autres gens en parallèle, enfin pas en parallèle, en même temps, mais on la tient à deux quand même au quotidien. C'est une maison qu'on veut engager, c'est une maison qui défend une ligne éditoriale féministe, antiraciste, queer, anarchiste. On publie des essais et de la littérature avec un intérêt particulier pour la littérature qu'on a envie de... Il y a un beau mouvement concernant les essais, la théorie, du côté des essais politiques, enfin engagés depuis quelques années. Il y a quand même un beau mouvement, une belle lame de fond. Et nous, on avait envie que ce mouvement existe autant en littérature, non pas qu'il n'y ait pas des livres de littérature qui soient engagés, mais en tout cas qui soient défendus comme tels, qui soient amenés comme tels au public, et que les auteurs et les autrices aussi les défendent et les revendiquent comme tels. Donc
et qui puisse exister aussi au sein d'un même catalogue,
oui.
Pas de manière éclatée dans des structures qui, pour qui c'est pas la ligne de faire ça, mais qui proposent des superbes textes, un peu ci et là dans le paysage éditorial. Quoi.
Ouais, c'est d'assumer un mouvement politique dans le littéraire et d'en faire de construire une constellation à partir de ça. Une constellation en disant on assume la radicalité du texte, on assume la radicalité de la langue potentiellement, mais aussi et surtout la radicalité politique et du contenu. Donc c'est ça qui nous anime quand on publie les textes qu'on publie. C'est une maison qui se veut aussi située, ancrée politiquement, qui défend du coup la subjectivité politique et la subjectivité de l'expérience. Ça part de nos expériences individuelles à Karima et moi aussi, vu qu'on est concernés par un certain nombre des enjeux qui sont au cœur de notre ligne éditoriale. Donc voilà, c'est d'assumer qu'on prend position en fait, et que le texte prend position. Il est là pour porter une voix et une parole, donc il est pas là. C'est pas un simple observateur. Il porte un discours qui met en jeu un contexte d'énonciation et un contexte de réception. Et ça, c'est important de l'avoir en tête quand on publie quelque chose.
Et après, sur la structure elle-même, il y a la volonté d'essayer de mettre en pratique ce qu'on défend au sein des textes. Sur tous les engagements féministes, queer, sur lesquels on fait du discours, on essaie de les appliquer aussi dans la structure elle-même. Donc déjà, ça passe par une réflexion évidente sur le montant des droits d'auteurs et d'autrices. Ça passe aussi sur les relations qu'on essaie de créer dans la sphère professionnelle. Là, par exemple, on a monté un collectif d'édition qui s'appelle Éditer en féministe, avec des collègues éditorices, pour essayer de mutualiser en tout cas et d'essayer d'être une force de frappe par rapport aux grands groupes qui ont un monopole, pas que du capital, hein, aussi de textes, de moyens de diffusion, d'outils de communication. Du coup, voilà, c'est essayer d'avoir cet engagement dans nos pratiques, elles aussi. Par exemple, ça passe par de l'accompagnement. C'est pas toujours évident de défendre des primo romanciers, romancières, et c'est ce qui nous intéresse le plus dans la structure, parce que des personnes qui sont déjà connues, c'est bien, mais elles sont déjà connues, et des personnes qui écrivent, il y en a beaucoup, 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 et c'est bien si elles peuvent être accompagnées, et si quand on pratique l'édition, on a la décence de le faire jusqu'au bout, et pas d'être en train d'acheter des textes de personnes qui sont déjà surmédiatisées.
Est-ce que vous vouliez me dire pourquoi Blast, ça s'appelle Blast?
En fait, il fallait vite trouver un nom pour la structure. Du coup, on a tablé sur 15 000 trucs et Blast, c'était court déjà. Il y a deux sens. Il y a le sens anglais sur l'explosion, l'effet de souffle, et le sens grec sur.
Avec un E. Qui veut dire ce qui germe, ce qui s'enracine, ce qui engendre, ce qui parasite. Voilà. Donc on aimait bien l'idée de, d'un côté d'avoir l'onde de choc, mais aussi la proposition derrière. Enfin voilà, les deux en regard.
Pourquoi vous faites ça ?
C'est. On se pose la question un peu tous les jours, en fait. Et il y a même des jours où on se dit, est-ce que ça vaut la peine qu'on continue ? Parce que c'est une charge de travail quand même considérable. Et on, voilà, on n'en vit pas, c'est la galère en termes de thunes, c'est la galère en termes de temps, enfin bon, c'est... Voilà, c'est... Mais... Et je crois qu'on se raconte pas d'histoire sur le fait qu'on est indispensable. On est absolument pas indispensable. On est plein parmi d'autres et enfin c'est ok si on n'existe plus à un moment donné quoi. Il y a pas de problème. Après je crois qu'on est porté par l'envie de construire quelque chose de collectif, de participer à notre échelle à quelque chose qui soit collectif, de porter des voix de personnes qui parfois accèdent difficilement à l'édition. On dit pas qu'on leur offre un chemin royal parce qu'on est une toute petite structure et qu'on a vraiment les moyens qu'on a, qui sont très limités. Mais ensemble, on peut essayer de faire des choses. Et d'ailleurs, il n'y a que ensemble qu'on peut faire des choses. Et il y a du coup ce truc... on ne fait pas que ça. On est aussi au kiosque, par exemple. Et c'est vrai qu'on connaît bien aussi les personnes de la BAF. Et on s'investit dans différents endroits localement ou moins localement. Je pense que c'est cette envie de pas rester seule avec ta lutte quoi, de pas rester avec ta conviction juste dans ton coin et voilà d'essayer de trouver une façon de la mettre en exercice, d'y trouver contradiction, de trouver ses difficultés, ses limites et d'explorer un peu plus pour voir ce qu'on peut en faire.
Après plus simplement au niveau des textes, je crois que c'est toujours plaisant de pouvoir lire. Quand on a envie de lire, et si on peut lire, des choses qui peuvent te ressembler. Donc ça peut être aussi simple que d'avoir des représentations, de belles représentations, mais ça peut être aussi stimulant. Souvent dans les critiques sociales, les approches sont hyper... souvent démonstratives. Donc on parle de quelque chose, on élabore une pensée, et la pensée elle est presque... extérieur au mécanisme de sensation. Genre, soit on comprend, soit on comprend pas, soit on s'accroche, ça peut être ardu, ça peut être simple, mais il y a toujours quelque chose, une forme d'extériorité dans la critique sociale. Et là, dans les littératures, l'idée c'était vraiment de faire le pari en se disant mais les personnes qui écrivent, même quand ça se déploie dans le cadre d'un roman, l'ancrage politique, il n'est pas moins là, il n'est pas moins présent. Une personne, elle va forcément, si elle s'exprime depuis d'un point de vue féministe, queer, on va forcément le sentir dans le texte. Et ça, par contre, c'est pas explicite. Et du coup, ça crée des choses intéressantes au niveau des imaginaires, ça crée aussi des choses intéressantes au niveau des émotions. On reçoit différemment. C'est plus kinesthésique, j'exagère un peu. Mais c'est plus... t'as le temps de t'emparer du sujet et de le réfléchir autrement que par le biais strictement intellectuel. Et ça, vraiment, je pense, c'est un des trucs qui me motive le plus à poursuivre.
Dites-moi, ce numéro que vous portez, ça veut dire quoi ?
Fahrenheit 451.
Pourquoi ce nombre-là plutôt que 813 ou
Fahrenheit
n'importe lequel ?
Fahrenheit 451, c'est la température à laquelle les livres s'enflamment et se consument.
Il y a une chose qui m'intrigue, mais j'ose pas vous le dire.
Allez-y.
Est-ce que c'est vrai que... autrefois, il y a très longtemps, au lieu de brûler les livres, les pompiers éteignaient les incendies?
Votre oncle a raison de dire que vous êtes stupide. Éteindre les incendies, quelle idée!
C'est quelqu'un qui me l'a dit, alors vrai ou faux?
Oh, voyons, c'est insensé. De tout temps, les maisons ont été ignifugées.
Pas la nôtre?
Eh bien... c'est une faute grave, elle devra être signalée. Et être démolie ensuite. Il faudra en habiter une qui soit ignifugée.
On verra ça. Dites-moi, pourquoi brûlez-vous les livres ?
Comment ? Ah, eh bien, c'est un métier excellent, un métier plein de diversité. Le lundi, on brûle Miller, le mardi, Tolstoï, une autre fois Shakespeare, puis c'est Faulkner. Et un samedi, ce sera Schopenhauer et Sartre. Les réduire en cendres et brûler les cendres, voilà notre slogan officiel.
Je vois que vous n'aimez pas les livres.
Aimez-vous l'orage?
Oui, j'adore l'orage.
Moi, je dis que les livres n'ont aucun intérêt. Ils se contredisent tous.
Alors, je ne comprends pas pourquoi on les lit, puisque c'est si dangereux.
Précisément parce que c'est défendu.
Mais pourquoi est-ce que c'est défendu?
Parce que les livres ne font que du mal.
Vous croyez vraiment ce que vous dites?
Oh, oui. Ils troublent l'ordre public, ils empêchent le progrès social.
Est-ce que je serais antisociale?
Pourquoi dites-vous cela?
Eh bien, je suis institutrice, mais enfin, pas tout à fait, je suis stagiaire. J'ai dû passer un test cet après-midi. Ça n'a pas marché, je crois. J'ai peur d'avoir fait des réponses maladroites. C'est probablement pourquoi je suis si nerveuse. J'ai dû vous agacer.
Non, au contraire. En fait, moi aussi, demain, je vais être interrogée. Je serai embarrassée. C'est comme ça.
Ah, voilà chez moi. Regardez, voilà ma maison. Un mot encore.
Une question?
Ce sera la dernière.
Bien, allez-y.
Vous n'lisez jamais les livres que vous brûlez.
Mais pourquoi faire? Premièrement, je n'en vois pas l'utilité. Deuxièmement, je n'ai pas le temps. Et troisièmement, c'est défendu.
Oui, bien sûr. Vous êtes heureux?
Hein? Évidemment, je suis heureux.
Bras zéro kiosque.
Vous êtes combien à gravité là autour de...
10 douzaines. Une douzaine. Mmh. Ouais. Mmh. Avec la complexité de passer un peu de, du coup, ouais, justement d'une équipe qui a monté le lieu à une équipe qui le tient. Et, parce que c'est pas les mêmes choses. Enfin, je trouve, on trouve tous, de toute façon, de trouver un peu les... Fabriquer ensemble, c'était une chose, et de le tenir ensemble, c'en est un peu une autre. Donc c'est un peu un autre mode de fonctionnement. Et... L'équipe se renouvelle un peu aussi, et je pense qu'on est pas mal à partir de ceux qui l'auront monté, mais c'est bien aussi.
Puis aussi, dans la construction, il y avait quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais fait ensemble. Enfin, moi, je sais pas, je le vois comme ça, et tenir le lieu. Il y a une histoire de comment ce lieu a été tenu, un peu des règles qui avaient été posées avant, et qu'on reprend, qu'on amende, qu'on peut laisser tomber, mais quand même, on suit un peu des règles qui avaient été fixées un peu avant nous, alors pour la construction, c'était tout à inventer, quoi. Je sais pas, moi, je me dis, ça change aussi les dynamiques et les possibilités d'implication, quoi. Puis c'était peut-être plus simple dans les travaux de dire « Ah, tu viens, tu fais ça, c'est pas compliqué. Monter des murs en terre paille, en fait, c'est pas compliqué. » Quand il y a des gens qui savent le faire, je sais pas. Moi, j'avais très peur et en fait, c'était faisable. Et pour le coup, c'est d'autres choses. Voilà, c'est des choses qui changent aussi dans la tenue du lieu, quoi. C'est un peu... peut-être qu'on est moins fort dans la passation des savoirs là-dedans, mais c'est vraiment d'autres enjeux.
Ouais, puis des trucs bêtes, on s'est retrouvés aussi à un moment donné à en fait tous travailler. Alors qu'on s'est rendu compte qu'avant, non mais c'est bête, mais avant en kiosque, il y avait toujours eu des gens qui travaillaient pas et qui s'en occupaient un peu, quoi. Et là il y a eu des moments où quasiment tout le monde avait un travail, et ben non, mais pour tenir un lieu c'est plus compliqué, quoi, il y a moins de temps aussi, et puis...
C'est vrai qu'il y a une réunion mémorable, il y a un membre du kiosque qui n'arrive pas à trouver une date commune, et puis apparemment il se fait « attendez là, mais qui travaille ici ?» Donc tout le monde lève la main, sauf lui, et dit « Ah ouais, c'est le seul collectif où il y a autant de gens qui bossent dans lequel je suis. C'est, je comprends pourquoi on galère. » C'est un peu marrant, ça.
Oui, vous vendez quoi, alors?
Des journaux, des bouquins, des disques, et ça, je suis un peu moins calé.
Des fanzines,
des brochures, un peu vieilles,
mais quand même.
Des BD.
Il y en a quelques-unes, ouais. Après, c'est pas les BD, on s'est pas spécialisé en BD, parce qu'on dit qu'il y a des gens qui connaissent bien mieux que nous aussi, et puis qu'à la limite,
Pas mal de librairies ont encore tous les indépendants, ce qui est peut-être un peu moins le cas sur le livre, vu que c'est un peu plus récent, et peut-être un peu moins, moins noyé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être un peu plus, y a un peu plus de tout dans les librairies spécialisées BD, quoi.
Et on vend aussi de quoi boire et de quoi manger quand on fait les soirées, présentations, rencontres et tout ça.
Enfin, on vend.
On vend.
Ouais. Et vous en faites souvent
des on, finir le terme de
on vend pas cher, mais
on fait pas de marge.
Ouais. On essaie d'en faire au moins deux par mois, quoi. Après, il y a eu des grosses périodes de vide avec des confinements et compagnie. Des périodes plus compliquées aussi parce qu'avec la chapelle, il fallait qu'on puisse faire quelque chose dedans, parce que dans l'espace du kiosque, c'est un peu petit ou c'est intimiste, quoi. Donc dès qu'on veut faire un peu plus gros, il faut quand même avoir la chapelle, donc s'ils sont en travaux, tout ça, c'est pas possible. Mais dans l'idée, ouais, c'est à peu près deux par mois, en moyenne, on va dire.
Vous choisissez comment ?
Il y a soit les gens viennent nous demander si jamais c'est possible de faire une présentation de bouquin, tout ça, soit nous, on a des envies de films, de livres, et on appelle les gens pour voir s'ils sont dispo pour venir les présenter. C'est un peu les deux manières. Les films, c'est quasiment toujours des gens du kiosque qui ont envie de les présenter. Les livres, c'est moitié-moitié peut-être.
Oui. Livre, les livres, ça correspond à une actualité de sortie
ouais.
immédiate, quoi.
Des gens
les films, envie. C'est plus un coup de cœur. C'est pas forcément lié à une sortie nationale ou je ne sais quoi.
Et comment vous les choisissez ? C'est-à-dire vous discutez des bouquins que vous mettez à la vente, ou c'est parce que c'est des maisons d'édition particulières, ou il y a un débat autour de ça, ou c'est...
Pas mal de maisons d'édition qu'on a depuis longtemps, qu'on suit, et du coup on va essayer de se tenir plus ou moins au fait de ce qu'ils font et leur commander régulièrement leurs nouveautés. Là on essaye de maintenir un peu des relations avec ces éditeurs-là. Et après, régulièrement, il y a des personnes qui vont découvrir des maisons d'édition et qui vont se dire ah, ce serait cool peut-être de présenter ces livres. En effet, on peut en parler. Après, il y a rarement de grosses discussions sur tel éditeur ou tel bouquin. Je ne sais pas, par exemple, il y a d'autres librairies associatives ou militantes où il faut que quelqu'un ait lu le bouquin avant qu'il rentre. C'est assez procédurier et tout. Mais franchement, c'est pas trop ça. Si on est déjà 2-3 à être d'accord sur la commande, c'est pas mal à la faire ensemble. Donc non, c'est. Après, il y a un truc de confiance. Après, si jamais un problème, je sais pas si un livre pose problème, il s'avère qu'un livre pose problème à un moment. Là, j'ai pas d'exemple en tête, mais bon, on réglera ça en discutant, on verra. Là, on le lira. Et si on nous signale quelque chose qui est dérangeant, on réagira, quoi.
Et on a vraiment l'idée, enfin en tout cas je pense, d'avoir une politique éditoriale vraiment la plus large possible, enfin dans un courant politique qu'on peut connaître, hein, qui a été plutôt très à gauche, tout ça, plutôt d'histoire sociale et compagnie, mais avec une volonté, je crois, d'éviter les batailles de clochers ou tout ça, et d'avoir un peu le spectre le plus large possible au niveau des écrits, que ce soit même au niveau des journaux ou des brochures, ou, d'essayer d'éviter de rentrer dans des petites guerres de chapelle, quoi, même si c'est pas toujours évident, en tout cas d'essayer d'avoir à peu près tout ce qui se produit sur Toulouse dans un milieu qu'on estime être anti-autoritaire et militant, et que quelles que soient les affinités de chaque personne du kiosque, je crois qu'il n'y a pas eu, hein, en tout cas rarement eu, un collectif vraiment kiosque qui a une ligne politique commune. C'est plutôt un agrégat de plein de gens qui sont dans une ligne politique commune large, mais il n'y a pas un... Je ne sais pas si j'ai été clair, je finis mieux, mais voilà, c'est l'idée d'essayer de rassembler le plus de trucs possible. D'être un peu la Suisse militante, quoi.
Sécurité en femme, prison, féminisme, médias, livres en langue étrangère, Marx et compagnie, néocolonialisme avec néo entre parenthèses, anti-technologie, antimilitarisme, éducation, santé, anarchisme, urbanisme, immigration, Algérie, lutte paysanne, on a Mexique, zapatisme, Amérique.
Et pourquoi vous faites ça, vous ?
Oui.
parce que déjà je suis un gros lecteur et que ça m'occupe demi-journée par semaine. Quoi. Voilà. Non, puis oui, puis l'envie de faire connaître des bouquins, c'est un truc. Hein. Un médium qui est intéressant. Le temps. Ça c'est bien, je discute avec les copains et copines de bouquins, ça me donne d'autres pistes de lecture, donc je suis content. Tout simplement.
Ce côté rencontrer quand même pas mal de gens un peu différents, avoir un lieu où on peut peut-être même avoir pas mal de fois des gens qui arrivent en dehors de Toulouse et qui, avec ce lieu-là, il est connu pas forcément que à Toulouse, mais des fois, c'est presque plus des gens qui sont pas à Toulouse qui vont y passer.
Bah, j'ai l'impression de faire. Cette idée de diffuser des livres, des fanzines, c'est des choses que je fais un peu dans d'autres pans de ma vie depuis longtemps, et là, c'est une sorte de prolongation un peu de ça. Et moi, au cœur, j'aime beaucoup amener notamment des choses qu'on ne peut pas forcément trouver ailleurs, comme des fanzines, il n'y a pas trop d'espace de diffusion pour ça, et je trouve ça vraiment. Important que ça existe et c'est aussi un espace, je sais pas, je me dis qu'on peut être surpris quoi, j'ai pas plein d'espaces dans ma vie comme ça où peuvent arriver des gens par hasard ou qu'on pensait pas rencontrer et qu'on finit par rencontrer, je trouve que c'est des parties par un espace où ça c'est possible et se faire surprendre et ça j'aime bien.
Quoi quand vous sortez un livre?
La fierté toujours quand même.
Ouais, j'aurais pas dit ça, parce que il y a beaucoup de fierté, mais en fait, le temps dans l'édition, il est complètement décalé. Tu travailles un texte vraiment un ou deux ans avant qu'il sorte. Du coup, toute la phase d'excitation, bah, tu l'as déjà un peu passée au moment où il devient public. Donc il y a toujours en fait, la fierté, elle existe bien en amont. Tu sais que ce titre, il va paraître à tel moment, mais du coup, tu continues de l'apporter. Mais quand un livre paraît,
il y a un truc... à chaque fois qu'un livre paraît, on se rappelle qu'il n'y a rien d'acquis. Enfin, que c'est pas parce que là, on est à notre 10e ou 12e ou 15e livre et c'est vrai que c'est incroyable quand tu y penses, tu vois, qu'on ait réussi à aller jusqu'à là alors qu'on partait de pas grand-chose, quoi. Tu te dis, c'est un truc de ouf. Enfin, c'est un truc de ouf, mais... Mais du coup, à chaque livre, on s'en rappelle, il n'y a vraiment rien d'acquis. Ce sera jamais gagné, en fait. C'est pas que économique, ce que je dis. Enfin, ça l'est, évidemment. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Et du coup, c'est se rappeler à chaque fois que c'est un travail à recommencer à chaque fois. Pour chaque livre, que ce soit l'accompagnement avec les autoristes, le travail de com, le travail de diffusion avec les libraires, c'est un truc, un éternel recommencement. Et du coup, c'est... On ne sait jamais si on va réussir à aller au bout de ce travail-là. Et du coup, oui, quand même, moi, je trouve qu'il y a une part de... Effectivement, la phase d'excitation peut être un peu moindre au moment de la sortie, mais il y a quand même une fierté de se dire « j'ai réussi à porter ce livre avec l'auteur ». Et après, j'ai une part aussi de gratitude qui est adressée à plusieurs personnes, qui est adressée en premier lieu à l'auteuriste. Parce que la confiance qu'il ou elle nous a portée avec ce texte, et ça, c'est quelque chose de vraiment très riche et dont on ne se séparera jamais. Et après, derrière, les libraires et les lectrices, bien sûr, parce que sans le travail des libraires, déjà, il y a très peu de lectrices qui des libraires et des bibliothécaires, en particulier les bibliothécaires associatives ou voilà, qui sont hors système. Sans eux et sans elles, on aurait beaucoup de mal à atteindre un public, en fait, parce qu'on est... Encore une fois, moyen de diffusion extrêmement limité. Donc on a vraiment besoin de leur soutien et du coup, voilà, il y a une part de gratitude qui est là aussi quand un livre sort. Ouais.
Vous leur souhaitez quoi, vos livres ?
Je vais répondre avec une façon de le dire de façon très livresque, mais rentrer dans le fond. C'est-à-dire ne pas avoir une vie qui ne soit faite que des 3 mois où ils sont sur les tables des librairies. Parce qu'un livre, quand il sort, il reste 3 mois ou 3, 4, 5 mois sur les tables des librairies en fonction du soutien des libraires. Et ensuite, derrière, soit il rentre dans le fond, sur les étagères, soit il disparaît des librairies. Et à ce moment-là, ton livre, s'il n'est pas rentré dans le fond, il est mort, en fait. Enfin, il est mort. C'est très difficile de refaire vivre un livre qui n'a pas... convaincu qu'il n'est pas allé jusqu'au fond. Donc, réussir à rentrer dans le fond, réussir à avoir une vie longue, en fait, une vie qui ne soit pas réduite à ces 3 mois hyper intenses dans lesquels il y a tout le flux des nouveautés qui fait qu'on manque de place, sur les tables, vraiment, physiquement, pour présenter toutes les nouveautés, et qui fait que le livre, là, disparaît sous le flux. Et le fond, il bouge moins souvent que les nouveautés dans les librairies au niveau des ventes. Mais en même temps, c'est là aussi où se joue quelque chose de solide. Donc... Ouais, rentrer dans le fond, et après, plus d'une façon moins terre à terre, de faire naître chez des lectrices ce qu'ils ont su susciter chez moi ou chez nous. La même petite étincelle de « il se passe vraiment quelque chose sur ce livre et que j'ai envie de le faire vivre avec moi ».
J'allais dire peut-être ce que je leur souhaite, effectivement, passer les questions plus pragmatiques, d'être reçues par des mains aimantes. Voilà.
Oui, c'est joli.
Fanzine, brochure, prix libre, bibliothèque, infokiosque.
Édition.
Éditrice, bibliothèque.
Bras zéro bouquin.
Je peux vous demander ce que vous êtes venu chercher ici.
C'est la première fois qu'on vient, mais moi je voulais surtout voir.
Oui, ça fait longtemps qu'on veut venir. Et chercher des livres de ces maisons d'édition indépendantes là, et à prix réduit, il y a des moments où on n'a pas forcément les moyens de les acheter à des prix coûtants.
Et ouais. Vous connaissez comment
Toi, t'as connu comment ?
Mince. Au début, j'ai juste appris que c'était la chapelle. Et après, j'ai vu qu'il y a des parents.
Moi, c'est mes éditrices qui sont présentes ici, là. Enfin, leurs livres sont présents ici, qui m'en ont parlé et qui m'ont dit, au fait, on met nos livres ici en rayon. À cet endroit où voilà, il y a des prix réduits parce qu'il y a des questions voilà, que je peux développer, etc. Ouais.
Parce que toi, t'écris aussi
ouais.
Quand tu dis mes éditrices.
Oui, c'est toujours bizarre.
J'adore.
Oui, oui.
D'accord. Voilà. Et t'écris quoi ?
Des romans. Ouais. Et c'est les éditions Blast qui sont présentes.
D'accord.
Voilà. Et ils sortent dans un mois. Donc, c'est ça.
Et t'es venu t'apprendre un livre en particulier du coup ?
Bon, ça, j'ai flippé de la revue parce que j'en ai deux, il manque celui-là. Et Nanny de Balestrini, j'aime beaucoup. Et justement, c'est trop bien parce que ce livre, il coûte 18 euros. Enfin, on s'en fout la question d'argent, mais c'est juste que c'est important quand même. Et en ce moment, je suis un peu en dèche. Et là, il est à 9 euros. Et ce livre, il est introuvable chez les bouquinistes ou quoi, parce que les gens le revendent pas. Et donc, voilà. Trop bien. Écrivain trop intéressant et sujet trop intéressant. Donc,
Et toi, t'as trouvé quel ton bonheur aussi ?
Bah, c'est lui qui m'a conseillé de prendre ça. Littéralement, il m'a dit tu le prends.
Voilà. Parce qu'en plus, bah, c'est la maison d'édition que j'ai publiée, donc ouais. Je suis un peu.
Clairement, c'est ça.
Et c'est une poétesse marseillaise, Luz Volkmann. C'est magnifique. Voilà. Ouais. Magnifique, c'est utile, c'est beau, c'est. Ouais. C'est trop bien.
Mais genre, t'es payé,
quoi.
Super, moi.
Non. Merci à toi. Non, mais du coup, là,
je suis vraiment pour toi. Comment on est édité chez Blast ?
Ça, c'est une question assez compliquée. Effectivement, on reçoit des textes la plupart du temps. Donc, la majorité de nos publications sont des textes qu'on a reçus de personnes qu'on ne connaissait pas.
Ce qui sous-entend, en fait, qu'on n'effectue pas de commandes. On ne contacte pas d'auteur ou d'autrice en lui disant on voudrait quelque chose et encore moins on voudrait ça.
Ça nous est arrivé aussi d'acheter des droits pour des textes qui n'étaient pas disponibles en France. Donc par exemple, La morsure du coquelicot, ça a été le cas. C'est une maison d'édition algérienne qui s'appelle Apic qui l'a publié et on voulait aussi porter cette voix dans notre structure. Et du coup, on a acheté les droits auprès de cette maison d'édition et de l'autrice pour avoir le droit de le proposer ici. Ça nous est arrivé aussi de faire des achats de droits pour des textes en anglais à traduire, mais ça concerne 3 titres dans la maison.
Ouais.
Le reste, c'est effectivement des personnes qui nous écrivent et qui nous disent « Salut, voilà mon texte ». Et c'est toujours agréable de se dire ça parce que tu sais pas du tout, tu t'embarques en fait au même moment, c'est une prise de risque, la personne qui t'envoie quelque chose que tu connais pas, qui écrit de son côté et qui partage ça, tu te mets vraiment en position de vulnérabilité. Et nous, derrière, en fait, ça nous met aussi en position de vulnérabilité parce qu'on reçoit et on va entamer un dialogue sur cette démarche, sur l'écriture, sur les intentions. C'est long, c'est fastidieux, c'est parfois éprouvant, c'est joyeux, c'est tout un panel de choses. Et du coup, soit le texte, je pense, la manière dont on procède, en fait, c'est toujours demander à la personne ce qu'elle a voulu faire et après essayer d'adapter nos retours par rapport à ses intentions initiales pour pas justement prendre des directions qui n'étaient pas forcément attendues. Mais ça, c'est quand on s'engage sur un texte et c'est, je dis ça un petit peu à l'arrache, mais... on est à l'arrache sur les manuscrits, on a un an de retard sur la lecture des manuscrits là, parce que c'est compliqué de faire de l'édito et c'est pas compliqué en soi, hein, c'est compliqué en termes de temps vu qu'on a un taf alimentaire et du coup on reçoit beaucoup beaucoup plus de textes que le nombre de textes qui est publié. L'année dernière on en recevait 7 par jour, cette année on en reçoit un peu moins. Mais ça peut aller jusqu'à 4 par jour, 3-4 par jour. Et il y a plus de textes que de jours. Et il n'y a pas beaucoup de temps dans la semaine. Et c'est pas très respectueux. Et on répond à tout le monde, mais ça prend du temps, quoi. Parfois, les réponses, ça met du temps à arriver.
Ouais, mais c'est vrai qu'après, je pense que ce qu'on essaye de garder, c'est qu'effectivement, ce que tu disais, il n'y a pas de modèle d'accompagnement. Il n'y a pas de façon unique d'interagir. on essaye vraiment de partir de ce que l'auteur est et de ce qu'il ou elle veut, souhaite, ce qu'il oriente en fait dans son texte. Effectivement, on bosse aussi avec des gens, bah, comme tu le disais, qui débutent. Alors en fait, souvent les gens ne débutent pas. En fait, ils écrivent depuis longtemps et beaucoup. Mais c'est juste la première fois qu'ils sont publiés. Donc il y a un sacré décalage en fait, entre les deux. C'est arrivé qu'on bosse avec des gens qui vraiment débutaient. Et on y a passé parfois plusieurs années à accompagner un texte comme ça. Donc c'est vraiment un travail de fond. Et à un moment donné, on se dit, c'est bon, on s'arrête. Ça fait 3 ans et demi qu'on est dessus. Et le texte, à la fin, ne fait pas 400 pages. Hein. Le texte fait 80 pages. Bon, ouais, c'est vraiment un truc, un travail de détail, un travail d'affinage très précis. Et après... globalement on bosse aussi avec des gens, faut pas l'oublier, qui sont en général concernés par les enjeux qu'on défend dans la ligne éditoriale qui est la nôtre, soit en termes d'antiracisme, soit en termes de queer, soit les deux, ou pour le féminisme, voilà, des personnes sexisées, bon, c'est très variable, mais en général ils sont concernés. C'est pas un cahier des charges qu'on fait à la base, on se dit pas tu dois appartenir à une minorité pour être publié chez Blast, on n'essentialise pas la domination et l'oppression. Mais de fait, il se trouve que les textes qui nous parlent et qui résonnent en nous sont des textes qui viennent de personnes marginalisées, ça vient des marges. Et je pense que c'est plutôt logique en fait. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une part importante d'autofiction aussi, parce que les gens parlent aussi de là où eux. Il se passe des choses et on n'a jamais dit dans notre ligne qu'on voulait publier que de l'autofiction ou en particulier. Mais bon, voilà, il se trouve que ça se développe de cette façon-là. Et il y a une chose qui, du coup, je reviens à ce que je voulais dire, qu'il ne faut pas qu'on oublie, mais comme ces personnes viennent des marges et sont souvent font face à des dominations, c'est des personnes qui sont exposées et surexposées à un certain nombre de violences parfois et de dominations. Et nous, on essaye d'avoir une attention à ne pas reproduire des schémas d'oppression, des schémas de pouvoir, parce que de fait, on est investi d'un pouvoir en étant à la place de l'édition, c'est la place du choix. C'est toi qui dis si oui ou non tu as publié ou pas, c'est toi qui fixes un certain nombre d'informations sur le livre, et à commencer par le prix, mais c'est tout bêtement, en fait, c'est un vrai pouvoir que d'avoir ce pouvoir-là. Donc on essaye vraiment de désinvestir au maximum ce rapport-là, de transmettre toutes les informations, de les discuter, on valide rien seul. Tout passe avec l'auteur ou l'autrice. Donc c'est vraiment d'être dans un partage au maximum du processus d'édition en fait. Voilà. Anecdotique de Karima Waranim qui a été publié en décembre 2021.
Parfois j'oublie que j'ai un sexe. On me le rappelle bien assez qu'il est vilain et perfectible. À défaut de changer sa litière, il faudrait le sortir plus souvent, que je le promène au gré des pourfendeurs. Chaque fois qu'une ride apparaît, soit-elle pruderie ou fatigue, j'ai peur qu'il meure pendant ma garde. Je l'ai déposé sur des dunes communiées son vécu à d'autres. Soudain, la courbe de mes fesses devint aussi politique. Je l'ai trouvé ringard alors de gémir seul son féminisme se prenant pour le centre de mon corps. Depuis, je n'ai pas retrouvé le plaisir des selles sans retenue. Trop de fabulation la guette. Non, ma chatte n'est pas ornée de paillettes et mes tétons non plus n'arbore pas de pompons. Le bleu se charge seul de briller mes nuits, leur reflet pourpre lent d'alerter ma conscience. Quelle faute de ne pas savoir, ne pas vouloir provoquer... quoi déjà ? L'incompréhension désodorise les idées. Reste la malaisance à dramatiser le libéré déconstruit aux dames d'aliénation qui poursuivront leur charme. Le désarroi jute de l'appétence quand la justice se filigrane en esthétique. Partout rabaissée, la gratitude dissonne. J'ai déjà répété qu'une rose est une rose est une rose est une rose... au pied d'un buisson rêche, enseveli de neige. Les ossements de sève, de calice et de tige compostaient gentiment le parfum des pétales. Et la rose qui fut rose au printemps de mon vouloir n'est plus qu'oxygène dans mes poumons de campagne.
Mrazero, c'est dans quelle étagère?
Et comment vous la réglez, la question anticapitaliste, sur le fait que les bouquins sont à vendre?
Je pense que la question anticapitaliste, on la résoudra pas. Moi, ce qui me paraît important, c'est de pas avoir un discours justement sur des engagements politiques et derrière de dire aux gens, bah, tu vas travailler vraiment bénévolement. Je considère qu'ils sont déjà plus ou moins bénévoles vu les moyens qu'on a et ce qu'ils pratiquent avec nous. Mais je pourrais pas dire c'est entièrement bénévole. Je pense que j'assumerai vraiment jamais ça. Et pour moi, anticapitaliste, ça veut aussi dire c'est pas qu'une histoire de est-ce qu'il y a des sous, est-ce qu'il y a pas des sous. C'est aussi dans quelles conditions est-ce que ça se passe pour toi. Et c'est pour ça aussi que certains livres sont à 15, 16, bientôt 17 euros. Et c'est beaucoup, effectivement, on en a conscience. Après, derrière, ça a un coût, un livre. Juste papier, matériel, etc. C'est pas le plus important. Mais il y a des coûts aussi. Je te prends vraiment un exemple tout bidon. Mais sur le prix d'un livre, le diffuseur, distributeur et libraire prennent 3,59% du prix du livre. Donc en fait, nous, du coup, ce qui reste, c'est 41%. Et sur les 41% qui restent, il va y avoir toute la structure, les autoristes,
l'illustratrice, la com,
les envois postaux, parce qu'il y a des personnes qui demandent des services de presse. Et ça, nous, sur l'édition, on est déjà au ric-rac. Mais du coup, voilà, le décalage, il vient aussi de là. Parfois, les livres sont pas forcément à des prix hyper, hyper accessibles, genre 7-8 euros. Mais pour moi, c'est aussi logique d'un point de vue anticapitaliste, justement, de dire mais si je le mets à 7-8 euros, en fait, la personne qui va travailler pendant 2 ans sur l'écriture d'un texte et qui est déjà pas payée comme elle devrait l'être, elle va avoir encore moins. Et je suis pas OK avec ça.
Oui, je crois que. Je crois que c'est pas un gros mot que de dire on assume que le travail doit être rémunéré. Et je pense que dans le milieu des arts, il y a d'ailleurs un mouvement de fond là-dessus sur le travail, l'écriture, la création. C'est pas que du talent à un moment donné, c'est pas du talent, c'est du travail. Et on a le droit de considérer que ça vaut une rémunération. Après, voilà, fixer le prix d'un livre, c'est jamais un truc facile. C'est toujours un truc. Voilà, à partir de quoi tu prends des enjeux, tu prends le format, tu prends les nombres de pages, tu prends bon. Après, je pense que je vais juste redire sur comment être. Je pense que sur la façon d'être anticapitaliste, c'est encore une fois ne pas chercher la rentabilité à tout prix. Pas être à la recherche du coût éditorial, de faire un livre seulement parce que tu sais que tu vas taper dans l'œil du public à ce moment-là. Et parce que c'est un peu la mode du moment que de parler d'un sujet. Et du coup, d'avoir vraiment une réflexion de fond sur la transmission et la mémoire des textes, sur la mainmise des grands groupes sur ces questions-là, sur la mainmise en fait, du capital sur les questions militantes et comment le capital a des capacités de récupération hyper puissantes de nos enjeux militants et de nos luttes, en fait, et comment on peut travailler ensemble à dire non, stop, on arrête ça, on essaye de trouver ensemble des modes de fonctionnement qui nous permettent de. On va pas être épargné, mais en tout cas d'avoir de la force ensemble et de mener des vraies réflexions de fond sur ces questions-là dans nos secteurs professionnels.
Je pense que le fait d'être concerné par des oppressions, ça aide en vrai à se rappeler ça. Tu n'es pas en train d'élaborer du discours sur qu'est-ce que tu penses être un féminisme stylé, soit comme si nos vies et nos vécus étaient bancables, quoi. T'es vraiment en train de te dire, putain, ça me fait penser à ça le matin, quand tu sors, tu te sens exposé, tu te sens vulnérable, quand on t'interpelle, et ça, tu te le rappelles toujours. Et je pense que ça c'est un des trucs à discuter, ouais, sur la parole située, déjà. Qu'est-ce que je fais et depuis où, quoi. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, ce texte, c'est une proposition. On voit toujours les textes comme une proposition. Ils sont forcément pas désirés et l'idée c'est de venir apporter quelque chose dans le champ de la création, et ça c'est du risque intrinsèquement, parce que comme ils sont pas désirés, ils sont pas reçus comme ils pourraient l'être, quoi. Et je crois que dans tous les textes qu'on publie, il y a quand même cette part de risque. On sait que c'est des formes des écritures, des formats qui sont pas encore désirés. Et l'idée, c'est pas de les rendre désirables. C'est quelque chose que j'ai en tête à chaque fois qu'on publie un texte, c'est de se dire que ce texte, il répond vraiment pas aux envies.
Aux horizons d'attente.
C'est gratuit.
C'est gratuit et c'est autant une proposition littéraire que politique. Et c'est vraiment d'avoir cette espèce de double équation en tête à chaque fois.
Ouais, de pas satisfaire une envie, ouais. Dans le sens où si tu satisfais une envie, en fait, tu réponds à une demande et t'es plus dans la proposition. On
dit ça. Mais en même temps, tu réponds pas aux horizons d'attente. Mais il nous est arrivé plein de fois qu'on ait des retours de lectrices qui soient hyper positifs. Ils ne l'attendaient pas, ils ne savaient pas que ça... Ils n'attendaient pas sa sortie, mais c'est venu répondre à une attente quand même qui était celle d'avoir un texte sur... par exemple, tu parlais des questions de représentation tout à l'heure, donc sur des questions de représentation ou sur certaines questions politiques. Donc dépasser les horizons d'attente, mais en même temps, tu combles quand même quelque chose... Enfin, tu combles. C'est un peu un grand mot quand même. Mais tu viens apporter quand même quelque chose à des personnes parfois qui... Où il y avait quand même une envie, il y avait une envie de voir ces textes-là exister. C'est ce soutien-là qui nous fait... Enfin, qui... Ça nous nourrit un petit peu pour continuer.
Et voilà, notre premier tour dans le monde des papiers de politique et de lutte. Chaque lieu nous guidant vers d'autres, nous sommes encore loin d'en avoir fait le tour. On a encore des sons de bibliothèques, mobiles ou pas, d'autrices de brochures et de fanzines, d'autres maisons d'édition. Bref, on en recause la semaine prochaine et les suivantes.
Une personne comme moi qui a visé anarchiste, mais qui n'est pas forcément au courant de toutes les subtilités sur ces questions-là, anarcho-féminisme, etc., je peux arriver et poser des questions un peu naïves sans avoir l'impression de gêner. Si je dis une bêtise, je sais que j'aurai des gens en face qui comprendront que c'est plus par maladresse qu'autre chose, en fait. Et donc, du coup, ça m'a permis de réfléchir à. D'élargir mon champ de réflexion et même d'action sur plein de sujets sur lesquels je... Et puis même à titre personnel, je fais court là-dessus, mais à titre personnel, j'ai commencé vraiment à réfléchir le genre, la masculinité, des choses comme ça, il y a 2 ans, pendant le premier confinement. Et je pense que... Moi, je suis arrivé à Toulouse, j'ai découvert la BAF un petit peu avant le confinement, en fait, et je pense que si j'ai commencé à réfléchir à ces choses-là à titre personnel, c'est aussi parce que j'avais... c'est aussi parce que j'avais rencontré... la BAF et que j'étais immergé là-dedans. Quoi. D'ailleurs, les premières personnes avec qui j'ai discuté de ces questionnements, c'était les gens de la BAF. Donc c'est l'endroit où je me sens bien. Pour conclure.
Bras zéro, j'aime lire.
J'aime lire.